Mélodie Chan, bonjour. Vous
Bonjour.
êtes réalisatrice et puis vous êtes du coup aujourd'hui dans l'inattendu pour nous parler de votre nouvelle création, donc Akeji, réalisée avec Corentin Lecomte. Donc c'est un film documentaire qui a reçu le prix du meilleur essai au festival FIFA, donc le Festival International du Film sur l'Art de Montréal. Et il sort en avant-première du coup au cinéma L'Arbre de Rennes mardi prochain. Dans ce documentaire qui dure donc 1h12, on plonge au cœur des montagnes japonaises pour partager la vie d'Akeji et Asako, donc un couple qui vit en quasi-autarcie dans un petit ermitage dans les montagnes. Maître Akeji, c'est un peintre qui est renommé et descendant d'une lignée de samouraïs. Il a été initié donc à la voie du thé, du sabre, et il pratique aussi la calligraphie. Et il tire son inspiration et aussi tout son matériel de création de la nature qui l'entoure et où il vit, et donc avec Asako. Mélanie, vous l'avez rencontré à Akeji pour ce documentaire et la rencontre s'est faite, si je ne me trompe pas, lors d'une exposition de ses travaux à Paris. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'en savoir plus sur lui à ce moment-là et voilà, quel a été le point de départ pour créer cette œuvre avec lui et...
En fait, la première rencontre qu'on a eue avec Akeji, c'était avec ses œuvres. On a découvert son travail et donc c'est des toiles en papier de mûrier, donc avec des fibres, enfin c'est très organique, et avec une puissance de trait. Enfin, on a été vraiment frappés en fait en voyant ces toiles. Et ensuite, on nous a dit que c'était un artiste japonais vivant et qui vivait en ermitage avec sa femme et qui faisait tout à partir des fruits, des fleurs. Enfin, il faisait ses pigments, il faisait ses pinceaux. Et il avait cet enseignement hérité de son grand-père, qui est un enseignement vraiment de samouraï, de lettrés japonais. Et en fait, on était fascinés par le Japon, avec Corentin déjà. Corentin qui est mon compagnon à la vie. Et en fait, on nous a décrit cette petite vallée perdue. Et c'était incroyable. Ça faisait vraiment tout de suite, ça éveillait notre curiosité. Et on a eu la chance de pouvoir le rencontrer parce qu'il sortait quasiment pas de sa vallée. Mais il est venu pour une exposition à Paris. Et donc, on a eu la chance de le rencontrer par des amis en commun, enfin d'être mis par des connaissances en lien avec lui directement. Et donc, nous, on avait réfléchi, on lui avait exposé notre projet. C'était très formel et il est très impressionnant. Il a vraiment une stature de grand maître en kimono, absolument mythique. Et donc, on lui a raconté que, voilà, qu'on voulait venir, qu'on voulait faire un film sur lui. Et qu'on ne sortirait pas la caméra tant que ce ne sera pas juste, enfin qu'on prendrait le temps en fait. Et que si la rencontre elle ne se faisait pas. Enfin, on n'allait pas insister. Et surtout, on allait essayer de respecter leur mode de vie. Alors c'est facile à dire quand on est comme ça, voilà, on était à Paris. Ouais. Mais il a acquiescé, il nous a rien dit, il a juste hoché la tête. Et il a pris son agenda et en japonais, il y avait une traductrice, il nous a dit « quand est-ce que vous voulez venir ?» On ne s'attendait pas du tout à ça parce qu'en fait, on nous avait dit qu'il n'avait jamais voulu être filmé, jamais. Et qu'il y avait une équipe de cinéma, enfin plutôt de télévision japonaise de la NHK, qui est l'équivalent de TF1 en fait au Japon, qui avait essayé et qui avait mis en place toute une production. Et en fait, ils ont été expulsés au bout de quelques jours de l'ermitage, de la vallée d'Imuro. Donc on marchait sur des œufs. Et donc il nous a dit ça, il nous a dit quand. Alors nous, on était un peu pris de court, donc on a dit on était en décembre, on a dit en avril prochain, parce qu'on avait l'idée des cerisiers en fleurs. On était encore un peu dans l'imaginaire japonais, des images qu'on peut avoir quand on n'est jamais parti là-bas. Et en fait, la rencontre s'est faite à ce moment-là. Et on a débarqué à Imuro, qui est une petite vallée perdue, et qui a pour spécificité en fait, d'avoir été très très longtemps cachée. Parce que Imuro, ça veut dire glacier. Et c'était les réserves de glace de l'empereur. Donc un endroit vraiment très stratégique à l'époque où c'est à côté de Kyoto. C'est pas très loin dans les montagnes. Et donc à l'époque où l'empereur la capitale était à Kyoto, à Heian, les réserves de glace étaient là-bas. Donc c'était facile d'empoisonner l'empereur en empoisonnant ses glaces. Donc c'était caché et c'était gardé par une famille de samouraïs. Et très longtemps, ça n'a pas apparu sur les cartes d'état-major. Et donc ça va avec la personnalité d'Akeji, c'est pas pour rien qu'ils se sont installés là-bas. Enfin. Et donc on se disait, mais on a débarqué dans cette vallée et on a été absolument saisis. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était pas du tout un film sur un peintre. Enfin, je fais un raccourci parce que je dis, on s'est rendu compte à ce moment-là. En fait, on a été saisis. Bon, voilà, c'était tellement incroyable d'être là-bas et leur manière de vivre en a un absolu osmose avec leur environnement. Ils sont shintoïstes, ils croient dans les esprits de la nature. Et c'est après coup qu'on s'est rendu compte en revenant, parce qu'on y est allé quatre fois à quatre saisons différentes, enfin aux quatre saisons. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas un film sur un peintre, mais plutôt un film sur leur manière de vivre. Mmh. Et aussi sur le temps suspendu là-bas.
Qu'est-ce que ça impliquait de filmer le quotidien justement de ce couple? Comment la caméra se faisait une place au milieu de cette nature et au milieu de leur quotidien?
Mais c'était un vrai enjeu, hein. C'est vrai que ce n'était pas du tout évident. Parce qu'il ne fallait surtout pas venir troubler leur équilibre. Surtout pour deux personnes qui vivent ensemble, en effet, en retrait du monde depuis 50 ans, dans une petite cabane en bois. Donc, ça a été très, très progressif, en fait. On n'a donc pas sorti la caméra tout de suite. À Keji, au premier tournage, en printemps, il ne nous a quasiment rien montré. Donc, on arrivait. Nous, on ne vivait pas avec eux pour ne pas les troubler. Et puis, parce que c'est fatigant, ils étaient âgés. Ils avaient 78 et 80 ans. Donc, on arrivait le matin et on buvait le thé. Ça, c'était la cérémonie du thé avec... il avait été initié à la voie du thé. Donc, la cérémonie du thé matcha. Et ensuite, on ne savait absolument pas si on allait pouvoir sortir la caméra ou pas. Et donc tout se faisait à l'intuition, en fait, à ce qu'on sentait qui était possible, parce qu'on ne pouvait rien lui demander. On n'allait pas lui demander « Keji, faites ça pour nous ». C'était pas possible. Voilà. Et puis, c'était pas du tout notre volonté de documentariste, en plus. On voulait vraiment être là et filmer ce qui advenait et pas ce qu'on provoquait, nous. La présence d'une caméra provoque toujours... forcément un changement, mais là, c'était étonnant comme le fait d'avoir pris beaucoup, beaucoup de temps. Donc, on a tourné quand même sur 4 mois. On a pris beaucoup de temps et ça se faisait vraiment pas à pas. Et en fait, là, on s'est apprivoisés, quoi, mutuellement. Et c'est au bout du... à la fin du deuxième tournage, au fin de compte, qu'on a compris que... enfin, qu'il a commencé à nous dévoiler des choses. De ses secrets de peinture, à nous laisser plus filmer... Mais malgré tout, c'était quand même aussi et sa personnalité et la nature qui dictait le rythme du tournage. Parce que par moments, il regardait le ciel, il disait non, pas aujourd'hui. Et parce qu'en fait, il allait se mettre à pleuvoir. Enfin, donc, c'était vrai, être vraiment à l'écoute de ce qui se passait et d'y aller très, très, très et progressivement pour trouver la place juste, en fait. C'est du temps long.
Et justement, vous parliez de rythme entre la nature et la création. Est-ce que dans la création aussi de votre film, ce que vous disiez un petit peu tout à l'heure, vous avez dû vous adapter à la fois à la nature et, on le disait, à leur rythme à eux?
Oui, complètement.
Totalement, oui.
Oui, ouais, c'était vraiment ça. La vraie saison de création pour Akagé, c'était l'automne. Et jusqu'au dernier jour de tournage, on pensait que... En fait, on voulait quand même le filmer en train de peindre à un moment donné, même si encore une fois, le film a pris une toute autre dimension en étant là-bas. Et c'était beaucoup plus large qu'on voulait raconter. Mais voilà, on se disait que quand même, en fait, il sublime beaucoup de choses dans sa création et dans son rapport à l'environnement. Et jusqu'au... Je crois qu'il a... Il a peint sa toile... C'était 2 jours avant notre départ. C'était incroyable. Et nous, on pensait... Et comme on avait eu ce rapport de confiance et puis d'y aller tout doucement à tâtons. Et en fait, on attendait, puis on sentait que les jours passaient. Et puis le retour en France arrivait. Et il nous disait non, pas aujourd'hui, non, pas aujourd'hui. Et tout d'un coup, il nous a dit, là c'est maintenant. Et ce jour-là, il y a eu les 4 saisons en une journée, c'est incroyable. Il y a eu du soleil, du vent, de la pluie, ça a fait une lumière. Il a été un peu, on se disait en regardant les rushs et en montant qu'il a été un peu notre chef-op. Parce que c'était une lumière incroyablement puissante et qui allait pour sa création. C'était pas anodin, mais il y avait quelque chose de... Oui, en effet, la nature était vraiment très présente pour nous aussi. Et puis on devait s'adapter à ça.
Et savez-vous pourquoi il a accepté, donc lui et sa femme, une telle collaboration? Est-ce qu'il y avait de sa part une volonté de laisser une trace, peut-être?
Même peut-être. Ouais. Il nous a jamais dit. Hein.
D'accord.
Il nous a jamais dit. Mais il n'avait pas d'enfant, Asako et lui. Et il n'avait pas de disciples en art, en calligraphie. Ils étaient très vieux. Donc il y a vraiment cette idée-là peut-être de transmettre à des jeunes. De fait, et comme il était très attentif aux signaux, enfin donc à la météo, mais à la nature, au changement de saison, etc. En fait, il a peut-être aussi senti que c'était les derniers feux parce que il a eu un accident cardiovasculaire, un AVC, un double AVC quelques mois après qu'on soit parti. Donc il avait peut-être senti que c'était la fin de cette manière de vivre. Et puis aussi le fait d'être français a joué. En fait, il était extrêmement critique vis-à-vis de la société japonaise et de tout ce qu'elle a de conformiste, de normative. Enfin, c'était un vrai marginal. Hein, et tous les deux étaient vraiment volontairement marginaux. Et donc, il avait de grands liens avec la France depuis les années 60. Il était venu un an en France. Et il aimait beaucoup la littérature. Enfin, il aimait ce qu'il voyait comme une liberté d'esprit français. Enfin, donc le fait qu'on soit français n'était pas un frein, au contraire. Il a peut-être plus pu s'ouvrir avec nous.
Ça a aidé. Ouais. Et dans ce documentaire, le spectateur vit un peu un moment suspendu où les sons de la nature se mêlent un petit peu aux voix et à la musique également. Pourquoi ce choix d'avoir donné autant de place au son de la nature et quel questionnement sur notre rapport au monde, notre place sur Terre, notre lien avec la nature, ça implique derrière? C'était une volonté de nous faire nous questionner?
Ouais, ben, c'est les questions qu'on s'est posées nous en fait. En étant sur place, on était citadins, on arrivait là-bas. Et donc il y avait tout cette dimension shintoïste, donc de les esprits de la nature, parce que le vent a un esprit, l'arbre a un esprit, l'eau. Chaque chose, chaque petite pierre, chaque plante. Et donc, on était très à l'écoute. En fait, il nous a rendus sensibles. Ça a été pour nous un avant et un après, même dans notre rapport à nous. Enfin, on a déménagé en rentrant. Ça a été vraiment très, très... Ça a laissé une profonde empreinte en nous. Parce qu'il nous a rendus sensibles. Il nous faisait écouter les chants d'oiseaux. Et il nous disait, vous avez vu là? C'est le même oiseau, mais ça a changé parce qu'on change de saison. Au Guissou, il nous faisait écouter le chant du printemps, le chant de l'été. Enfin, et donc, on était complètement, je dirais, poreux ou ouverts à tout ça. Et on s'est rendu compte à quel point c'était... pour eux, c'était... Tout est sur un plan à égalité, en fait, vraiment. Mais complètement. À tel point qu'à un moment donné, on s'est dit qu'on faisait presque un film animalier. En fait, ils étaient une créature parmi d'autres, mais vraiment. Et pour l'anecdote, le titre en japonais, on en a discuté avec lui. Et le titre en japonais, lui, ce qu'il voulait, c'était « Celui qui vit niché à l'ombre de la montagne ». Niché, donc c'est un idéogramme japonais qui est utilisé, il nous l'a donné, un kanji, qui s'applique beaucoup plus pour les animaux que pour les êtres humains. Et quand on a montré ce titre à des Japonais, ils nous ont dit « Non, vous vous êtes trompés, là, c'est pas le bon idéogramme, ça c'est pour les animaux. » Vraiment. Et en fait, lui, c'était comme ça qu'il se percevait tous les deux. Et c'est un peu ça, du coup, qu'on a essayé de construire dans le film, enfin, une espèce d'immersion totale et que tout soit vraiment sur un même plan et que la musique ne vienne... Il y a assez peu de musique et très peu de musique instrumentale, mais qu'elle vienne vraiment se fondre avec les sons de la nature. Donc il y a eu tout un travail vraiment très intéressant après en post-production de mixage, le montage son. On a fait très attention, on avait des sons à nous et on a fait très attention à ce que les sons qu'on rajoutait soient des vrais sons japonais d'animaux de là-bas, de la bonne saison. Enfin, il fallait que ce soit juste, en fait. Et on n'avait pas le droit de tricher avec ce film, on ne pouvait pas. Et on ne voulait pas. Et donc vraiment, ça a été tout ce travail très, très intéressant en montage son et en mixage pour arriver à créer cette immersion, en fait, qu'on vivait là-bas, dans la vallée d'Imoro.
On le disait tout à l'heure, ça vous a fait un petit peu changer de vie. Peut-être qu'il y a eu une prise de conscience derrière pour vous deux. À quel point ça vous a impacté, vous, en tant que réalisatrice et également en tant que... Quatre vivants,
c'est ça, en plus c'est le bon mot. Ça a été... On revenait, alors à ce moment-là, parce qu'on a tourné il y a longtemps, on a tourné en 2015. C'est un film qui a une histoire, pas mal de péripéties, parce qu'en fait, on est pas... quand il nous a dit oui, à ce moment, en décembre, quand il nous a dit d'accord, venez, enfin, il fallait saisir cette chance au vol, on le sentait aussi. C'était beaucoup... très intuitif. En fait, ça passait pas vraiment par le rationnel, parce qu'en fait, on est partis tous les deux avec notre matériel. on n'a pas eu le temps de chercher des financements. Et puis quand on revenait, ben, on travaillait pour pouvoir financer le prochain voyage. Donc on a fait tout à l'envers, en fait. Il ne faut pas faire ça. Quand on fait, enfin, disons que ce n'est pas le modèle classique et qu'après, c'est très difficile de raccrocher les wagons ensuite. On a eu la chance de rencontrer notre producteur, Gilles Padovani, qui nous a dit à la première rencontre, parce que donc on avait déjà toutes nos images. On a tourné en 2015. Et il nous a dit, mais ça, normalement, je fuis. Je ne veux surtout pas. Voilà, c'est vraiment tout ce qui est le plus compliqué à produire par la suite. Et en fait, il nous a dit que bon, bah, la rencontre l'avait convaincu, les images aussi. Mais donc vraiment, ça a pris beaucoup de temps. Donc, ça nous a permis aussi de décanter cette expérience-là, de la laisser. Et pour le film, et pour le montage du film lui-même, voilà, qui a vraiment fait son cheminement. Et qui ressemble. Enfin, si on l'avait monté tout de suite après, il n'aurait jamais ressemblé au film actuel. Donc, ça a été vraiment très très bénéfique pour le film ce temps-là. Et alors pour nous, ben, on habitait Paris à ce moment-là et on rentrait et on était mais effarés, enfin complètement épuisés. Et puis que il y avait quelque chose de pas du tout biologique, organique dans le rythme, dans nos vies. Alors, on a déménagé ici en Bretagne. Et vraiment, ça nous a. Oui, ça continue à nous marquer en profondeur. On veut continuer nos films. Enfin, voilà, c'est devenu vraiment une ligne directrice, une ligne de vie.
Et le film, du coup, a donné lieu aussi à un court-métrage en premier lieu, c'est ça, de 15 minutes. Pourquoi avoir choisi d'exploiter tout son potentiel jusqu'à en faire un long-métrage?
Ben en fait, on savait qu'on voulait faire un long-métrage. On avait 180 heures de rush. C'est beaucoup. tout n'était pas évidemment à garder, mais on avait beaucoup de matière. Et en fait, il y a eu une exposition. Donc, on était seuls à ce moment-là. On n'avait pas de producteur, pas de productrice. Et il y avait une exposition. Et ça a été sa dernière. La dernière exposition d'Akeji vivant à Créteil, à côté de Paris. Et en fait, on connaissait son galeriste. Et on a proposé de faire ce court-métrage de 15 minutes qui était vraiment pensé pour une exposition. Donc, c'était sans parole et c'était vraiment le rapport d'Akeji. Pour le coup, beaucoup moins la relation entre Akeji et Asako, mais vraiment Akeji le peintre et son rapport aux éléments, au vent, au feu, à la nature. Et donc, on a fait ce court-métrage et il l'a vu. Et c'est vraiment la dernière fois qu'il est venu en France avant de s'éteindre. Et c'était, je crois que c'est une des fois où mon cœur a battu le plus vite au moment de lui montrer. C'est quand même quelque chose de faire un film sur un être vivant, un documentaire sur un homme, et de lui montrer. Et là, il ne vivait plus dans sa cabane puisqu'il avait eu il était très diminué. Il avait eu son AVC et du coup, il vivait dans un appartement médicalisé à Kyoto. Et donc, il est arrivé avec un garde malade. Enfin, et il a vu. Et il l'a regardé et il était fait pour tourner en boucle le film dans l'exposition. Et il l'a regardé et puis à la fin du film, toute la salle a quitté l'auditorium. Et lui est resté. Et en fait, toute la semaine où il était là, il est resté comme ça, à regarder les images de cette vie perdue. Enfin, et donc, on s'est dit, mais heureusement qu'on avait fait ce court-métrage de 15 minutes. Parce qu'on a pu lui montrer quand même que c'était en chemin et il a pu voir ces images-là et son garde malade qui était en fait son disciple en arts martiaux. C'est encore une autre histoire, c'était un kiné qu'il a cherché pendant 10 ans. Il a cherché Akeji comme maître. Il l'a rencontré dans les 2 dernières années de la vie d'Akeji. Et donc comme il était médecin, c'est lui qui l'avait accompagné. Et il nous a dit, toujours, toujours aussi lapidaire, hein, au Japon, c'est pas latin. Il nous a dit, il vous a fait entièrement confiance, il a su que vous pourriez le comprendre. Et voilà, et c'est la seule chose qu'on saura. Mais en tout cas, il a du coup donné son assentiment à ce film-là, ce court-métrage-là.
Bien, merci beaucoup, Mélanie.
Merci à vous.
On rappelle que le film est du coup disponible en avant-première mardi 19 octobre au cinéma L'Arvor à 20h15. Donc, et il sera également programmé dans le cadre du mois du documentaire. Et voilà, ce sera possible de le visionner à plusieurs reprises. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Au revoir.